Alors, la demande initiale d'Amélie était sur les sols de plantation. Hein, donc, je vous ai fait quelque chose sur les sols de plantation, les peuples raies n'étant abordés qu'à travers les considérations plus générales que les peuples raies elles-mêmes. Donc, ça laissait une palette assez grande de choses qui pouvaient être dites, qui pouvaient être abordées. Heureusement, j'ai pas prévu d'aborder ce qui a déjà été abordé sur les sols. Et du coup, je vais commencer par vous dire un petit peu, non pas ce que je vais faire, mais ce que je ne vais pas faire. Je ne parlerai pas de type de sol, par exemple. Je ne parlerai pas de réductissol, de luvisol ou de machin comme ça. On s'en fiche complètement. Il y en a qui disent ouf. Hein? Et aussi, je ne parlerai pas de travail de sol, ni de technique de plantation. Ce n'est pas mon objet, ce n'est pas du tout mes compétences. En plus, ne pas dire que j'évoquerai pas la notion de travail du sol. J'en parlerai comme. Mais pas des techniques. Alors derrière ça, donc, pourquoi on va s'intéresser au sol de plantation, hein, en général, et de peuplier en particulier? Bah, quand même, le sol reste, ça a été dit, c'était évoqué, hein, ça reste quand même, bien qu'on l'oublie souvent, un des principaux facteurs de production. Ne pas parler de sol, c'est comme ne pas parler de climat. Est-ce qui vous viendrait à l'idée de faire une plantation forestière, quelle qu'elle soit, sans prendre en compte le climat sous lequel vous êtes? Et là, pourquoi des fois on oublie le sol? Je me pose la question. Hein, les études montrent que le sol est aussi important en termes de production, en termes de facteur de production, que le climat. Deuxième raison, le capital sol est extrêmement fragile. Et fragile, le climat, lui, il est sensible à des facteurs extérieurs qui ne dépendent pas du sylviculteur, hein, ou du propriétaire, alors que le capital sol, la préservation du capital sol, peut dépendre directement de la personne qui intervient, comme ça se voit particulièrement sur cette photo. Donc, deuxième raison pour ne pas oublier le sol dans nos réflexions, dans vos réflexions. Après, avant d'aborder les choses proprement dites, les sols de plantation, pluriel éventuellement, ont-ils des particularités? A priori, tous les types de sols qui existent en France peuvent être, bien sûr, impliqués dans des opérations de plantation. Ce n'est pas tout à fait vrai pour les sols de peuplerais, hein, mais quand on parle de plantation en général, c'est parfaitement vrai. Mais par contre, ils ont quand même un certain nombre de points communs qui peuvent les rapprocher. Alors, très souvent, ce sont des sols qui présentent une contrainte à la production. Donc, contrainte à la production des espèces spontanées qu'on pourrait trouver dans une forêt. Pour cette raison, le propriétaire, l'exploitant, a envie de mieux valoriser ses sols et il a des moyens en substituant les essences, c'est un des moyens. Et donc, substitution d'essence va passer obligatoirement par plantation. Alors, ça peut être des contraintes hydriques, ça peut être des contraintes trophiques, ça peut être des contraintes diverses, de pente, etc., etc. Quelquefois, ça peut être non pas une contrainte à la production, potentiel de production de l'essence présente, mais simplement de sa régénération, hein, l'installation de nouvelles semences. Donc, dans ces cas-là, on peut être amené à faire des plantations de l'essence préexistante, comme on peut être amené à faire des plantations, si on le choisit, d'une essence de substitution. Dans d'autres cas, on peut avoir affaire à des milieux dans lesquels la contrainte est telle qu'elle empêche tout boisement spontané. Donc, il ne s'agit pas de remplacer une essence qui ne donne pas satisfaction, mais de créer des boisements là où il n'y en avait pas. Alors, c'est typiquement ce qui se passe dans les tourbières, et c'est typiquement ce qu'on a fait la période FFN, hein, après la dernière guerre, et c'est typiquement ce qu'il ne faut plus faire. Si naturellement un reboisement ne s'installe pas, hein, le forestier, il n'arrivera pas à l'installer, ou en tout cas, il n'arrivera pas à installer une essence qui soit productive et qui soit intéressante économiquement. Donc, en plus des raisons écologiques évidentes, il n'est plus question d'essayer de reboiser des tourbières, il n'est plus question de reboiser des dunes. Dans certains cas, la contrainte est telle qu'elle empêche non pas la colonisation, mais la recolonisation des terrains lorsque des activités humaines ont fait disparaître la forêt. Typiquement, les Landes de Gascogne supportaient des espaces qui ont été boisés, des chênaies pédonculiaux, des chênaies à chêne tauzin, qui existaient, qui couvraient le terrain, qui ont été détruites par l'homme pendant des centaines d'années, et cette forêt était incapable de se réinstaller seule. On retrouve des situations analogues dans d'autres terrains très acides, ça s'est retrouvé dans les Vosges, ça s'est retrouvé en forêt de Fontainebleau, par exemple, dans certaines stations. Et dans ce cas-là, l'homme peut être amené à aider la nature pour reconstituer un peuplement. Un peuplement est possible, puisqu'il existait avant, donc simplement un coup de pouce pour le replanter. Donc ça a été les campagnes de reboisement du 19e siècle dans un certain nombre de milieux, en particulier Landes de Gascogne, donc contexte de sol hyperacide, ou ça peut être aussi dans des contextes dans lesquels la disparition de la forêt a entraîné des processus d'érosion tels, dans des matériaux tendres, on est ici sur des marnes noires du sud des Alpes, qu'il n'est plus possible d'installer une végétation, la vitesse d'implantation des arbres sur ces milieux-là est trop longue par rapport à la vitesse d'érosion. Donc on érode trop vite pour pouvoir installer quoi que ce soit. Donc ça aussi, campagne importante de reboisement du 19e siècle. Par exemple, dans ces milieux-là, on a planté du pin noir sur des surfaces considérables, ce qui a permis à lutter efficacement contre l'érosion. On plante quoi aussi? On peut planter des sols agricoles. Alors des sols agricoles, en général, aussi contraintes importantes. Parce qu'on ne va pas planter en forêt des sols agricoles qui n'ont pas de contraintes. Ils vont rester en agriculture. Donc on nous refile ce qu'il y a de plus mauvais. Hein, et qui en plus a été détérioré par rapport, entre guillemets, le sol naturel. Alors vous avez ici une très belle semelle de labour, donc des contraintes à l'enracinement qui sont liées à l'ancienne exploitation agricole de ces sols-là. Autre exemple, des sols industriels. Hein, bon, je vous passe les contraintes de pollution chimique, cette fois, de ces sols industriels. Et puis, dans certains cas, il peut s'agir de sols qui ont des potentiels pas si mauvais que ça, des contraintes pas forcément si fortes que ça, mais qui ont spécifiquement un potentiel exceptionnel pour certaines productions qui correspondent à un marché spécifique. Typiquement, on est dans des populicultures, dans le contexte de la populiculture, qui n'occupe pas que des mauvais sols, trop mauvais pour l'agriculture, trop mauvais pour les essences autochtones, qui peuvent occuper des situations potentielles extraordinaires. Les forêts alluviales à bois dur, qu'évoquait Richard Chevalier tout à l'heure, correspondent souvent à des sols, des stations exceptionnelles en termes de potentialité pour énormément d'essences, et en particulier pour le peuplier qui trouve une nappe d'eau en profondeur. Donc ça, c'est de loin pas le plus fréquent. Quand même, dans tout, par rapport à tout ce que je viens de dire, pour ce qui concerne les plantations en général. Quoi qu'il en soit, donc contexte général assez difficile, hein, on retient déjà ça, et dans ce contexte un peu difficile, quoi qu'il en soit, la plantation doit dans tous les cas s'assurer une gestion assurée, une gestion durable, là je parle spécifiquement des sols, une gestion durable des sols, c'est-à-dire que la technique d'installation ne doit pas amener à détruire le potentiel du sol, pour des raisons évidentes qui sont liées à la production elle-même, hein, liées à la production elle-même, on préserve le caractère, le potentiel de production du sol, que sinon on peut amener à détruire, je vais vous le montrer, et puis de manière annexe dans mon sujet, mais pas annexe du tout dans le contexte socio-économique, préserver les fonctions environnementales du sol, stockage de l'eau, fonction de filtration d'eau, etc., etc., fonction biologique, etc., et préserver les écosystèmes auxquels appartiennent le sol, qui font partie de l'écosystème, dont ils sont un élément, et protéger leur biodiversité. Donc, tout ça passe par des plantations eh bien, respectueuses du sol, respectueuses de l'environnement. Ça peut exister, j'espère. Alors, pourquoi ça peut ne pas être respectueux, hein? Parce qu'il y a des menaces sur prendre deux volets, hein, sur le plan physique, sur les propriétés physiques du sol, et deuxièmement, des menaces sur le plan biologique et surtout chimique du sol. Donc ce sera mes deux alinéas suivants. Menace sur les propriétés physiques du sol. Eh bien, la menace, c'est le tassement. Bon, passer par des termes compliqués et alambiqués, le tassement, alors ça, c'était peut-être une allée forestière autrefois, ou un chemin de débarnage, mais vous voyez que la détérioration, elle ne se contente pas à ce passage-là, elle se fait sur l'ensemble de la surface de la parcelle. Donc c'est pas très jojo ce qui s'est passé ici, et là on peut dire que les propriétés physiques du sol, elles en ont pris un coup. Le deuxième corollaire de ça, c'est les risques d'érosion. Je vous dirai dans un instant que la détérioration de la surface du sol conduit à des imperméabilisations, qui conduit à des stagnations d'eau en surface. Vous associez stagnation d'eau en surface et pente, hein, et vous avez de l'érosion, surtout sur certains matériaux. Donc ça, c'est la conséquence immédiate de première action de tassement. Alors, c'est quoi ça? Donc le tassement, c'est premièrement une perte de porosité du sol. Certains types de porosité. Je passe rapidement. Voici ici, vous avez en fonction de la profondeur de sol, la répartition des volumes de ce sol-là. Vous avez toute cette partie-là qui correspond au solide du sol, matériau proprement dit. Le reste, c'est la porosité. Avec à droite la micro-porosité du sol, la porosité fine, celle qui contient l'eau. Et au milieu, la macro-porosité. Et cette macro-porosité, c'est quoi? Ben, c'est là où passent les racines, c'est là où circule l'eau. Le tassement, on supprime quoi? Évidemment, le volume des solides ne bouge pas. Moins évidemment, mais c'est le cas, le volume de la porosité fine ne change pas. Donc on diminue le volume total du sol, on tasse, au détriment de la macro-porosité, au détriment de la circulation de l'eau verticale et au détriment du passage des racines. Conséquence sur le sol lui-même, on voit très bien ici une couche, alors on est ici à 5 cm, la partie supérieure a retrouvé une certaine aération pour des raisons que je n'aborderai pas. Hein, vous voyez ici, il y a des agrégats, il y a une structure, il y a des mottes, il y a quelque chose, il y a de l'air, hein, il y a de l'eau qui passe, il y a de l'air qui passe, alors qu'ici, on ne voit plus d'agrégats, c'est-à-dire de mottes, ça c'est le truc qui est tombé, qui était éboulé, on ne voit pas de mottes, hein. En conséquence, entre ces mottes, il devrait y avoir une porosité importante qu'il n'y a plus ici. Conséquence, les racines, on va le voir, la diapo d'après, ne peuvent plus passer. Conséquence, l'eau stagne, ne circule pas, ce qui se traduit par ces taches ici d'hydromorphie. Et le fait qu'on ne voit pas ces taches en profondeur prouve bien que c'est un problème d'infiltration de l'eau depuis la surface, problème lié à la perte de porosité. Donc, stagnation d'eau, condition asphyxiante pour les racines, disparition de la porosité, condition difficile pour la progression, la croissance des enracinements. Conséquence, voilà ce qu'on observe sur des jeunes semis, c'est même pas des plants, c'est pas des déformations dues à la plantation, il s'agit de semis sur la parcelle dont vous avez vu la photo tout à l'heure, hein, avec de toute évidence des enracinements extrêmement contraints, avec des porosités qui se développent sur le plan horizontal, et puis des porosités verticales qui ne permettent pas la progression de l'enracinement. Vous voyez ici la renflure au bout de ce pivot, c'est du chêne, hein, au bout de ce pivot de chêne montre qu'il a stoppé sa croissance verticale. Il y avait un nouveau plan ici de contrainte horizontale. Conséquence, eh ben, conséquence des diminutions de croissance des semis. Hein, il y avait des semis d'une dizaine d'années qui faisaient 50 cm de haut, alors qu'il y en a d'autres qui faisaient 2 mètres de hauteur, en fonction de l'emplacement exact par rapport au tassement. Et sur des peuplements installés, hein, des cas de dépérissement qui peuvent être signalés. Alors cet tassement, il n'est pas dû à la plantation elle-même, mais il est dû en général à ce qui se passe avant, toutes les pénétrations dans les parcelles. Alors ça me fait une petite penser à une petite chose. parlais tout à l'heure d'entretien du sol. Alors justement, pour l'entretien du sol, ça se fait en faisant pénétrer des engins. Hein. Et l'engin, il risque de faire quoi? Il risque de tasser. Donc j'éviterai le terme entretien du sol. On va mieux parler contrôle de végétation, puisque ça n'entretient pas le sol. Ça, ça a plutôt tendance à le dégrader. C'était bon, une petite plaisanterie au passage. Donc des engins dont l'intervention, dont vous savez, ça a été évoqué pour les chemins, qui sont de plus en plus lourds et qui ont de plus en plus de conséquences avec l'évolution des techniques sur les sols. Le fait que le poids soit de plus en plus grand fait que les profondeurs sur lesquelles s'observent les conséquences de ces passages sont de plus en plus importantes. Donc on peut tasser, grâce à la nouvelle technologie, les sols de plus en plus profondément. C'est pas beau ça. Il y a des causes qui sont plus naturelles, par exemple les grandes tempêtes qu'on a connues. Bah, vous imaginez ici tout ça, si ce sont des chablis et pas seulement des volis, que la quantité de terre qui a été remuée, qui a été mélangée, qui est passée cul par-dessus tête, perturbe considérablement les sols. Ça peut être des causes plus anthropiques, comme des travaux du sol faits dans des conditions difficiles, j'y reviendrai peut-être un petit peu, ou inadaptés. Le forestier, souvent un sous-développé du travail du sol. Ou la technique, je pense la meilleure technique inventée par l'homme pour perturber et détruire des sols, c'est le dessouchage dans une ancienne parcelle forestière. Ou des travaux du sol faits des interventions diverses, enfin, pas forcément le travail du sol, ça peut être l'entretien ou le contrôle de la végétation, des interventions faites sur des sols mouillés ou simplement trop humides. Petite succession de photos là qui sont prises sur une toposéquence. On est ici en haut de versant, sur un sol à 27% d'humidité volumique, mi-versant, 33%, et bas de versant, bas de pente, une humidité volumique de 44%, beaucoup d'eau ici, et vous voyez l'évolution des traces laissé par un passage d'engin. C'est le même passage, c'est le même engin, puisqu'on est sur le même chemin. Plus un sol est humide, plus il va être sensible à cette destruction de structure, plus il va être sensible à ces tassements. Alors pour finir sur ce problème, quels sont les sols sensibles? Vous savez peut-être tout ça. Hein, avant tout, les matériaux limoneux, les limons, c'est des particules très fines, et quand par tassement on imbrique ces particules très fines en détruisant la structure, eh bien on fait disparaître la macroporosité très très vite. Les espaces qui restent entre les particules font partie de la microporosité, ne permettent pas la circulation de l'eau, ne permettent pas la pénétration des racines. Et de plus, les limons sont les matériaux dans lesquels la remédiation est la plus faible. Un limon, contrairement aux argiles, c'est un matériau inerte, pas de gonflement-retrait. Gonflement-retrait, il pourrait permettre de retrouver de la porosité, de retrouver une structuration. Si le limon est très pur, il n'y aura aucun mouvement. Et c'est une chose de très stable. Le tassement est acquis, en l'absence d'activité biologique du sol, est acquis pour plusieurs décennies. Alors les sols acides, je passe. Les sols, donc on est dans quels sont les sols les plus sensibles. Les sols humides, voire engorgés. Et là, bien sûr, un renvoi au sol de peupleraie, qui, s'ils sont bien choisis, si les emplacements sont bien choisis, sont humides, voire engorgés. Donc vous êtes dans des situations particulièrement sensibles. Sans ogée, ça veut dire sans éléments grossiers, sans cailloux. Les cailloux sont des éléments de résistance au tassement. Faible teneur en matière organique, j'insiste pas. Sous climat agressif, bon, c'est plus grave en région méditerranéenne qu'en Normandie, à cause des phénomènes d'érosion, et les sols nus sont particulièrement sensibles par action directe de la pluie qui va aider à la déstructuration et au tassement. Voilà. Menaces sur les propriétés physiques en conclusion. Pour tout ce qui concerne les propriétés physiques du sol, et leur préservation et leur gestion durable, mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi? Parce que la guérison naturelle, je l'évoquais, peut être impossible. Il n'y a guère que les mouvements de gonflement-retrait qui peuvent recréer une structuration, redonner des bonnes conditions, ou une forte activité biologique. Si vous êtes sur un limon acide engorgé, vous êtes dans la situation la pire. Et puis, parce que la guérison par travail du sol, je connais guère d'autres guérisons anthropiques, est incertaine. On n'est pas sûr qu'on arrive à quelque chose. Périlleuse, parce qu'on peut faire très bien le contraire de ce qu'on souhaite faire, si ce n'est pas fait dans des conditions parfaitement contrôlées, et de toute façon coûteuse. Et puis, moi je conclue par ça, après c'est facile, moi je suis spécialiste du sol, considération économique, je vous les laisse, donc c'est facile. Et puis les considérations pratiques. Un travail du sol ne devrait être envisagé, entrepris, que si il y a des dégâts antérieurs, une cause X ou Y, qui sont constatés et qui risquent de mettre en péril la plantation. Une semelle de labour, par exemple, on peut essayer de la détruire. Un sol qui a été perturbé, chamboulé par la tempête et par l'exploitation des arbres des chablis après tempête, bon, il y a sûrement du travail à faire là pour améliorer les choses. Je passe au deuxième volet, les menaces sur les propriétés chimiques des sols. Les menaces, c'est quoi? C'est augmenter considérablement les exportations. Alors très vite, dans une forêt, on va dire exploitée traditionnellement, il faut bien avoir en tête que l'exportation d'éléments minéraux, de nutriments, qui se fait par l'exploitation des grumes, et des grumes seuls, est, si on le ramène à des quantités annuelles, relativement faible. Tous les ans, les arbres ils puisent beaucoup d'éléments pour constituer leur feuillage, mais tout ce qui constitue le feuillage retourne au sol. Donc le reste qui va servir dans les accroissements du tronc et des grosses branches, c'est faible. C'est tellement faible que ça peut être compensé par les apports aériens ou ça peut être compensé par l'altération de la roche. Mais dès qu'on va augmenter ces exportations, c'est-à-dire qu'on va prélever plus que les troncs, qu'on va prélever des quantités de nutriments très importantes, cet équilibre peut être remis en cause. Il va être remis en cause. Alors, on ne va pas tout regarder là-dedans, ça peut être relativement complexe, juste deux choses. L'effet de l'âge d'exploitation, parce que la tendance, vous la connaissez, on l'a évoqué, c'est premièrement d'exploiter de plus en plus jeune, en faisant grandir plus vite les arbres, et d'exploiter de plus en plus de biomasse. On a parlé des houppiers tout à l'heure. Et puis quand on exporte les houppiers, quand on exporte le petit bois qu'il y a dans les houppiers, on enlève les feuilles souvent en même temps, ou les aiguilles plus souvent, quand c'est des résineux, bien sûr. Et bien, vous voyez que là, dans un peuplement, dans un arbre de 60 ans, l'essentiel de la biomasse, c'est du bois. Et dans le bois, ça c'est le bois, ça c'est les branches, ça c'est les feuilles ou les toutes petites branches. Alors que, donc, si on exploite tout ça au lieu d'exploiter que ça, c'est pas trop grave. Par contre, la part de biomasse qu'il y a dans un peuplement exploité à 20 ans est beaucoup plus grande dans les petits bois que par rapport à ici. Deuxième chose qu'on peut voir là-dedans, les choses qui sont à ce moment-là beaucoup plus graves, c'est que lorsque l'on rajeunit l'âge d'exploitation, la quantité d'éléments exportés devient considérable. Pourquoi? Parce que dans un arbre à 60 ans, ça, je prends l'exemple de l'azote, mais ce serait pareil pour le calcium, l'azote des feuilles représente qu'on est à 25% à peu près, l'azote des branches représente une quinzaine de pourcents, et l'azote du tronc, le reste. Alors que lorsque l'on considère un arbre plus jeune, l'azote des feuilles et des branches représente 80% de l'exportation. Et tout ça, c'est ce que, dans une exploitation traditionnelle, on laisse sur place. On ne retire que ça. Donc, autrefois, on retire ça. Maintenant, on a tendance, dans certains cas, extrême d'intensification de l'exploitation, à retirer tout ça. Autre façon de voir les choses, ici, de comparaison d'exploitation du tronc sol, ce que je disais, ou de l'arbre entier, hein, ce qui se fait beaucoup sur les résineux, à différents âges. Et ça, c'est la quantité de biomasse que permet de fournir la consommation d'un kilo d'azote. Un kilo d'azote pour, c'est du Douglas, dans le Beaujolais, un kilo d'azote permet de fournir une tonne de biomasse de Douglas. Si on l'exploite à 20 ans, avec un kilo d'azote, on ne fournit plus que 700 kilos de biomasse. C'est-à-dire que si on veut une tonne de biomasse en l'exploitant à 20 ans, il faudra plus d'azote, faites le calcul tout seul. Et puis si on exploite l'arbre entier, là, c'est la catastrophe. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la dégringolade. Hein, à 60 ans, si on exploite l'arbre entier, on ne produit plus avec un kilo d'azote que 600 kilos de biomasse. Donc en exploitant l'arbre entier, le surplus de biomasse coûte très cher en éléments minéraux, en fertilisant. L'arbre entier. Et si cet arbre entier, on l'exploite très jeune, pour faire plusieurs récoltes, alors là, vous voyez que 1 kg d'azote ne permet de fournir que 200 kg de biomasse. Donc ça coûte très très cher. C'est de l'énergie qui coûte très cher en éléments minéraux. Alors tant qu'on ne les remplace pas, ça ne coûte rien. Mais tant qu'on ne les remplace pas, l'écosystème, il est en train de se casser la gueule. Les réserves trophiques de l'écosystème, chut, ce n'est pas de la gestion durable. Tout ce qu'on exporte là ne sera jamais compensé par l'altération ou par les apports aériens. Donc ça, c'était les risques d'appauvrissement en exploitant plus qu'avant. On retire plus de produits de la parcelle. Autre risque, c'est d'augmenter la productivité et donc la quantité de biomasse produite par l'arbre et donc la quantité de biomasse exploitée chaque année. Alors, on va regarder le Douglas. Vous voyez, c'est le même chiffre que tout à l'heure. Hein, Douglas non fertilisé. 1 kg d'azote, ici, permet de produire 890 kg de biomasse pour le Douglas. Situation, on est dans le Morvan. Le hêtre, lui, avec la même quantité d'azote, ne produit que 490 kg de biomasse. Et vous allez me dire, c'est tout bon ça. On remplace le hêtre qui ne pousse pas par du Douglas, hein, qui est plus valorisable, et puis on consomme moins. Sauf que, on ne consomme pas moins du tout, parce que dans le même temps, la productivité est multipliée par 2 ou par 3. On remplace du hêtre qui produit bon an mal an 4 mètres cubes par hectare et par an, voire 5, par du Douglas qui va produire 10, 15, voire plus de mètres cubes par hectare et par an. Et donc, on renverse la situation, hein, et on se met à exporter, à partir de sols qui, dans ces cas-là, sont des sols extrêmement acides, à exporter des quantités d'éléments minéraux considérables. Au final, hein, la plantation se traduit par une forte augmentation de la quantité de nutriments. Je croyais que j'avais une photo, là. Non, elle est là, oui. Donc, alors, quels sont les sols sensibles? Même question de tout à l'heure. Bah, par exemple, des sols initialement très pauvres, dans lesquels, je vais très vite, hein, finalement, la quantité de réserve de nutriments dans le sol est très faible par rapport à ce qu'il y a dans le peuplement. Ce qui est montré ici pour le calcium, par exemple. C'est pareil, c'est le même contexte, hein, de forêt acide, forêt naturelle acide, trait du Morvan, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit ici. 325 kg de calcium sont présents dans les différents compartiments de l'arbre. Feuilles, plus branches, plus tronc. 325 kg par hectare. Dans la litière, tout ce qui est tombé au sol, les humus, vous avez 200 kg de calcium. Et dans le sol, jusqu'à 40 cm, vous avez 160 kg de calcium. Allez, on dit c'est un peu plus profond, ouais, ça fait 60. Contexte de sol peu profond. Hein. On va arriver à 200 kg. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que la quantité dans le sol lui-même est du même ordre de grandeur que ce qu'il y a dans les litières, et ce qu'il y a, voire inférieur à ce qu'il y a dans le peuplement. C'est-à-dire, vous exploitez l'arbre entier, on enlève 325 kg de calcium. Vous travaillez comme un cochon sur des pentes, hein, vous érodez, les humus sont décapés, les humus sont entraînés par l'érosion en bas de la pente, vous enlevez 200 kg de calcium. Reste 200 kg de calcium maximum. C'est-à-dire, il ne vous reste, c'est théorique, hein, mais c'est pour frapper les esprits, il n'en reste pas suffisamment pour recréer le peuplement à l'identique. Ce n'est pas de la gestion durable des sols. En conséquence, ben voilà ce qui vous attend à la deuxième génération. Actuellement, le massif armoricain, on est à la deuxième génération d'épicéa de Sutka ou autre pin, et ben la deuxième génération souffre de carences nutritives importantes qui remettent en cause les peuplements. Donc, la plantation ici n'est pas durable. Je ne parle même pas des conséquences économiques. Donc, conclusion, quels sont les sols sensibles, on a vu, en particulier, mais ce n'est pas les seuls. Sur sol, donc hyperacide, une substitution d'essence et le régime sylvicole qui lui est souvent associé par intensification de la sylviculture, hein, vont entraîner une augmentation des exportations qui est incompatible avec une gestion durable des stocks de nutriments. Donc ça nécessite une intervention de l'homme, qui sera coûteuse, hein, obligatoirement. Donc il faut savoir ce qu'on fait au départ. Sur des sols plus riches, un déséquilibre peut apparaître aussi lors de productions ligneuses très exportatrices. Par exemple, les peupleraies. Parce que le peuplier est très exigeant en éléments minéraux, il aime les sols riches, on l'a dit plusieurs fois, hein, et c'est encore pire sur des systèmes de production de biomasse, je ne veux pas dire système sylvicole, qui exportent des matériaux extrêmement jeunes et donc extrêmement riches en éléments minéraux par quantité de biomasse. Voilà, merci de votre attention.